le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Europe pourrait-elle se mettre d'accord pour fermer toutes ses stations de ski à Noël et empêcher ainsi la possible propagation du Covid-19? L'Allemagne le demande solennellement. Les professionnels craignent un manque d'égalité, vous l'entendrez.
C'est pour éviter une rupture d'égalité que le Conseil d'État annule deux dispositions importantes de la réforme de l'assurance chômage. Vous comprendrez pourquoi dans cette édition.
Nous reviendrons ensuite sur la mort de Diego Maradona, un footballeur au pied gauche imparable, à la main de Dieu qui fit briller l'Argentine sur le toit du monde. Un sympathisant aussi de la gauche sud-américaine, vous le comprendrez. Maradona est mort hier. 4 ans jour pour jour après Fidel Castro.
Et puis en France, on pleurera aujourd'hui le décès de Daniel Cordier, un hommage national lui sera rendu aujourd'hui. Il est aussi à l'origine d'une des plus grandes donations d'œuvres d'art à l'État français.
Dans un quart d'heure, le billet politique de Frédéric Seil, c'est cette question ce matin. Peut-on avouer quand on est fatigué, quand on est responsable politique ? Le sujet est sensible avant les fêtes de Noël, car les stations de ski ont été source de plusieurs foyers épidémiques de Covid-19 l'hiver dernier. Faut-il les rouvrir ou attendre le mois de janvier ? L'Allemagne demande aujourd'hui à ce que la question se pose au niveau européen de façon coordonnée. Le pays assure jusqu'à la fin de l'année la présidence du Conseil européen et va donc demander aux 27 de fermer leurs stations de ski. Mais l'Autriche et la Suisse ne sont pas d'accord. Ces deux pays au moins veulent lancer leur saison dans quelques jours. De quoi faire des jaloux en France où les professionnels demandent à pouvoir ouvrir. Écoutez par exemple Jean-Luc Bloch, le président de Montagne France.
Nous on trouve qu'il y a un vrai souci d'équité. Alors on est en concurrence directe avec les Autrichiens, avec les Suisses, un petit peu moins avec les Espagnols et les Andorrans. Alors eux, ils vont ouvrir leur station et nous, la nôtre sera fermée. Ça paraît déraisonnable. Et en tout cas, pour nous, ça ne paraît pas acceptable. On ne peut pas laisser travailler des concurrents mais néanmoins amis et nous fermer l'intégralité de nos stations. On n'arrive pas à le comprendre, ça. Et d'autant plus que le taux d'incidence, notamment en Suisse, est bien supérieur au taux d'incidence en France.
Jean-Luc Bloch, le président de Montagne France, qui continue d'avoir des réunions avec le gouvernement en espérant qu'Emmanuel Macron revienne sur ses propos. Le président avait évoqué avant-hier une ouverture des stations mi-janvier. Alors certains diront que le ski ne concerne que 5% des vacanciers en hiver, mais le secteur pèse 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le pays, Marie Viennot.
Quand tout va bien, on appelle ce secteur l'or blanc de la France. Avec les États-Unis et l'Autriche, la France est dans le top 3 mondial pour les recettes dégagées par les activités de glisse. 55 millions de forfaits journées sont vendus chaque année. Or, pour 1 euro dépensé en forfait, 6 euros supplémentaires sont dépensés en station dans la location du matériel, les cours, les transports, les commerces, les bars, le logement, selon les calculs de Domaine skiable de France. En temps normal, le chiffre d'affaires total des 350 stations de ski françaises et de 10 milliards d'euros. Or, 2 milliards ont déjà été perdus, selon France Tourisme, entre mars et aujourd'hui. Et les vacances de Noël comptant pour un quart des recettes, les pertes vont encore aller grandissantes. Tous ceux qui sont pénalisés seront indemnisés, a rappelé hier le ministre des Finances, mais aucune indemnisation ne sera à la hauteur des pertes économiques et psychologiques, selon les élus des territoires concernés, qui mettent en avant les protocoles sanitaires très stricts qu'ils avaient mis sur la table pour pouvoir rouvrir. 90 000 emplois dans les Alpes du Nord dépendent directement du ski, 15 000 dans les Alpes du Sud, 10 000 les Pyrénées et 5 000 pour les Vosges, le Jura et le Massif central.
Marie Viennot, merci beaucoup. Les stations de ski en grande difficulté donc face au confinement, auquel s'ajoute toujours le réchauffement climatique. Le ski à tout prix, mais à quel prix ? Voilà un article fouillé, détaillé, à retrouver en ligne sur notre site franceculture.fr. Les professionnels dans les stations de ski continuent donc leur tractation avec l'exécutif. En revanche, aujourd'hui, on devrait en savoir un peu plus sur l'allègement du confinement. Les attentes sont nombreuses, immédiates. Elles concernent notamment la réouverture des commerces ce samedi, dans 2 jours. Avec quel protocole sanitaire ? Jean Castex, le Premier ministre, s'exprimera à 11h tout à l'heure à ce propos. Il s'agira aussi de présenter les aides aux personnes en difficulté, comme aux entreprises fermées jusqu'au mois de janvier. On peut noter les bars, les restaurants, les salles de sport ou les discothèques. Une information par ailleurs déjà ce matin dans les colonnes des Échos. La ministre du Travail annonce une aide exceptionnelle pour tous les travailleurs précaires. Elle concerne ceux qui travaillaient régulièrement avant la crise du Covid-19, même s'ils alternaient avec du chômage, et qui sont aujourd'hui en difficulté. Selon Elisabeth Borne, environ 300 000 personnes pourraient toucher ce revenu mensuel. L'assurance chômage, nous nous y arrêtons ce matin puisque le Conseil d'État la retoque en partie, en tout cas retoque sa réforme de l'assurance chômage. Il annule deux mesures très contestées, le nouveau mode de calcul des allocations et l'instauration d'un bonus-malus pour certaines entreprises. C'est un désaveu pour Emmanuel Macron qui voulait changer le calcul actuel. Selon lui, il n'incite pas à chercher un emploi. Mais le Conseil d'État estime que les nouvelles règles constituaient une rupture d'égalité. Il répond en cela à une demande de la CGT, son négociateur Denis Gravouille.
La moitié des économies de dépenses, des économies faites sur le dos des chômeurs en baisse d'allocation, c'était un changement de mode de calcul de l'allocation où certains pouvaient perdre les trois quarts de leur allocation. Puisque on allait plus prendre l'ensemble des salaires divisé par le nombre de jours de travail, mais divisé par le nombre de jours sur lesquels se sont étalés ces jours de travail. Ce qui fait que, par exemple, un intérimaire qui travaille 6 mois mais étalé sur 2 ans, il aurait une allocation 4 fois plus basse qu'un intérimaire qui a un seul contrat de 6 mois. Bon, et ça, c'est une rupture d'égalité. C'est ce qu'on a plaidé devant le Conseil d'État, qui l'a retenu. Le Conseil d'État considère que ce point-là est illégal et c'est le point qui faisait le plus d'économies. Donc, le gouvernement maintenant doit revoir complètement sa réforme. On doit se revoir avec le gouvernement. Maintenant, la logique, ça pour le coup, toutes les organisations qui siègent à l'UNEDIC, patronales et syndicales le disent, puisqu'il annule aussi la façon dont le bonus-malus aurait dû être pris pour les entreprises.
Des propos recueillis par Catherine Pétillon alors qu'un appel à manifester est maintenu pour le 5 décembre prochain. Sur le front de la négociation sociale encore, syndicats et patronats se retrouvent aujourd'hui sur la question du télétravail. Un consensus national n'est toujours pas trouvé. Et puis aujourd'hui aussi, le ministre de l'Intérieur doit rendre public un premier rapport de l'IGPN, la police des polices, sur les débordements qui avaient eu lieu avant-hier soir à Paris, place de la République. Une évacuation musclée, violente, de centaines de migrants qui s'installaient sur la place. Je rappelle que 2 enquêtes visent déjà des policiers pour des violences envers un migrant et un journaliste.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Diego Maradona est décédé d'une crise cardiaque hier à l'âge de 60 ans.
Et son aura, Guillaume, ne s'arrêtait pas aux barrières d'un stade de football. Il était certes considéré comme un dieu, c'est le mot employé par les Argentins, à qui il a offert la Coupe du Monde de football en 86, considéré aussi comme un sauveur par Naples, qui l'a conduit à ses 2 seuls titres de champion d'Italie en 87 et en 90. Mais Maradona, avec ses excès dans la vie, était aussi une star de la pop culture. Si j'étais Maradona, je vivrais comme lui, sous le slogan définitif chanté par Manu Chao en 2007 pour ce footballeur proche de la mafia napolitaine en Europe, soulignons-le quand même, fervent défenseur des luttes sociales sur le continent sud-américain. Il était une icône pour beaucoup et il avait aussi ses idoles, Omar Waman.
Diego Armando Maradona n'a jamais caché sa sympathie pour la gauche rouge, marxiste. Partout où il allait, il arborait fièrement un tatouage du Che sur son épaule droite. Che Guevara, argentin comme lui, est également cubain de cœur. Cuba, où Maradona a vécu par alternance pour soigner une dépendance à la cocaïne. Soutenu par son ami Fidel Castro, qui lui offre un jour son costume militaire vert bouteille. Diego Maradona, qui ne peut retenir ses larmes après la mort du leader Maximo le 25 novembre 2016. Castriste, mais aussi chaviste, Hugo Chavez, fondateur de la révolution bolivarienne, à qui Diego rendait régulièrement visite à Caracas. Car Maradona, c'était d'abord un enfant des bidonvilles, mal né, parvenu au firmament du football mondial. Adulte, adulé, il n'a jamais oublié d'où il venait. Sa cible favorite, l'impérialisme américain, les shérifs de la planète comme George Bush Jr., qu'il comparait à une poubelle. Excessif, Maradona l'était assurément. Mais El Pibe de Oro a surtout montré qu'il fut plus qu'un footballeur, rebelle avant tout.
Omar Waman pour ce portrait politique donc de Maradona. Le président argentin a déclaré hier 3 jours de deuil national. La dépouille de Maradona est arrivée cette nuit au palais présidentiel à Buenos Aires pour une veillée funèbre, veillée qui va durer une journée. Ses proches sont déjà sur place. Il avait menti à la police fédérale au sujet de ses contacts avec un diplomate russe pour aider Donald Trump dans sa campagne présidentielle en 2016. Le voilà gracié par le président Trump. Michael Flynn n'ira pas en prison. Il était le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump pendant 1 an. Les démocrates dénoncent ce matin une atteinte à l'état de droit, mais la pratique n'est pas nouvelle, Sébastien Paour.
Ce n'est pas la première fois que le 45e président des États-Unis offre ainsi son pardon, et ce n'est peut-être pas la dernière non plus. Trump a déjà fait preuve de clémence pour un ancien commissaire de police, un ex-gouverneur et d'autres personnes condamnées pour fraude ou corruption. En graciant le général Flynn, le locataire de la Maison-Blanche met fin à toute possibilité de réouverture du dossier par la prochaine administration. Au-delà du cas Flynn, d'autres proches du président pourraient ainsi être mis à l'abri, seraient notamment sur la liste, d'après la presse américaine, son avocat personnel Rudy Giuliani, le directeur financier de l'entreprise Trump, son ancien directeur de campagne Paul Manafort et le père de son gendre Jared Kushner, pratique que d'autres présidents ont utilisée dans le passé en choquant tout autant. Ford en 74 avec son prédécesseur Nixon, blanchi après le scandale du Watergate, et plus récemment Bill Clinton au dernier jour de son mandat en 2001 avec l'homme d'affaires Mark Rich poursuivi pour fraude fiscale.
Sébastien Paour depuis New York pour France Culture. C'est une liaison aérienne qui était encore inimaginable il y a quelques mois. Un avion a décollé ce matin de Dubaï direction Tel Aviv. Il s'agit d'une des premières concrétisations des accords d'Abraham qui normalise les relations entre les Émirats Arabes Unis et Israël. À partir d'aujourd'hui, 28 vols par semaine sont prévus. L'ultimatum étant passé, il met à exécution ses menaces. Le Premier ministre éthiopien lance ce matin la phase finale de son offensive dans le Tigré contre les autorités de ce territoire à la frontière avec le Soudan et l'Érythrée. Les liaisons téléphoniques et Internet avec le Tigré sont actuellement coupées. L'accès à la région est toujours strictement contrôlé. 500 000 habitants au moins seraient totalement encerclés. Il était la mémoire vivante de la résistance, compagnon de la libération lors de la Seconde Guerre mondiale. L'ancien secrétaire de Jean Moulin, Daniel Cordier, aura cet après-midi son hommage national aux Invalides à Paris. Il s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 100 ans, engagé pour la France, engagé aussi, et on le sait peut-être un peu moins, pour l'art. Après-guerre, Daniel Cordier est devenu un grand galeriste et un immense mécène, Anne Lamotte.
Nous sommes en 1973. Daniel Cordier a 53 ans et des milliers d'œuvres chez lui. Il n'a plus de galerie à Paris, il l'a fermée une dizaine d'années auparavant et il fait partie de la commission d'acquisition du Musée National d'Art Moderne. Alors l'idée germe, pourquoi pas une donation? Et le voilà qui entame une vie de mécène.
Cet homme était absolument extraordinaire. C'est un bienfaiteur.
Bernard Blisten est le directeur du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Impressionné par le nombre d'œuvres que Daniel Cordier donne tout au long de sa vie à l'institution, 1356.
Ce qui est proprement vertigineux.
Et par la qualité de ses œuvres, du Buffet, Armand, Viala, Mata, Tapies ou Brassailles.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lorsque vous mettez en scène une collection, comme nous le faisons, avec toutes les rotations que nous faisons, en permanence, vous en appelez nécessairement à la collection de Daniel Cordier.
Qui ne manque pas de combler les trous, si nécessaire.
Il lui est même arrivé d'aller acquérir des œuvres, je songe à une très grande sculpture, magnifique d'ailleurs, de César, en disant « il faut cette pièce, elle est essentielle et vous ne l'avez pas ».
Daniel Cordier, guidé par l'amour de l'art et par un certain sens du devoir aussi, d'après Bernard Blisten.
C'est aussi quelqu'un qui, sa vie durant, a eu une certaine conscience de l'État. La conscience de l'État, il l'a certainement eue aux côtés du préfet résistant Jean Moulin, et il l'a eue sans doute plus tard encore, quand il s'est dit qu'il ne pouvait pas garder à l'abri du regard des autres toutes ces œuvres qu'il avait accumulées.
Toutes ces toiles et tous ces objets aussi. Car le mécène amasse des trouvailles venues de tous les continents. Haches préhistoriques, vertèbres de baleines, fétiches ou faux cols de chemise. Une collection en forme de cabinet de curiosités dont la grande majorité des œuvres est mise en dépôt et en valeur au musée des abattoirs à Toulouse, avec comme seul cahier des charges être aussi libre que Daniel Cordier l'était.
Anne Lamothe qui vous propose également un article écrit sur le mécène qu'était Daniel Cordier, amoureux de l'art, à retrouver sur franceculture.fr ce matin. Le ciel restera couvert de la Bretagne jusqu'aux Flandres aujourd'hui, du Roussillon jusqu'aux Cévennes aussi avec quelques pluies prévues. Ailleurs, on reste sur un temps légèrement ensoleillé mais surtout très frais avec 0 degré ce matin à Strasbourg, 5 à Paris et à Lyon, 8 degrés à Nantes et 14 près de la Méditerranée.
Merci Clara. Le Coq-Réal, dans 30 minutes environ, il y aura mes camarades Hervé Gardette pour sa transition, Géraldine Mosna-Savoie pour son carnet de philosophie et Arnaud Laporte pour entendre la parole d'un artiste. Mais auparavant, on va parler de politique en compagnie du philosophe Pierre-Henri Tavoyau et de Jean-Michel Fauvergue, député de La République En Marche, ancien chef du RAID et co-rapporteur de cette loi qui a provoqué beaucoup de polémiques, qui en provoque encore, cette loi sur la sécurité globale. Et puis un billet politique avec vous, Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
Peut-on avouer qu'on est fatigué quand on est un responsable politique ? On va se poser la question.
Et dans quelques instants, 8h16 sur France Culture.